Comme 400 millions d'électeurs d'Europe, nous nous préparons aux élections européennes qui auront lieu dimanche 9 juin.
À quelques jours du vote pour désigner les députés qui siégeront au Parlement européen, il est bon de se remettre en tête ce qu'apporte l'Europe à notre région. Investissements en faveur de l'emploi, la cohésion sociale et la transition énergétique sont quelques-uns des axes de son action. Pour nous accompagner dans cette réflexion matinale, Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison de l'Europe, est en ligne avec nous. Bonjour madame.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec joie. Tous les 5 ans, c'est un véritable marathon que vous participez à l'occasion de ces élections européennes. Que pensez-vous de la communication faite autour de cette échéance électorale ?
Alors, je constate qu'elle est beaucoup plus importante que pour n'importe quelle autre élection, y compris les dernières. On sent qu'il y a une volonté d'informer, que ce soit les médias, les associations ou tout organisme dont c'est la mission. Et en effet, il y a cette fois beaucoup d'informations qui fait que, je pense, les citoyens qui souhaitent s'informer ont à disposition beaucoup, beaucoup d'éléments.
Heureusement. Alors, je voulais reprendre une phrase de Jean Monnet. Il disait que l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. L'histoire lui a récemment donné raison, que ce soit lors de la crise sanitaire ou de la guerre en Ukraine. Geneviève Saint-Hubert, quels sont les enjeux d'un tel scrutin pour cette année 2024 ?
Alors, les enjeux d'un scrutin, vous l'avez rappelé, c'est que nous sommes d'une part dans une situation internationale qui est assez compliquée. Les enjeux sont également ceux de la désinformation, hein, c'est-à-dire le risque que les citoyens, on dit qu'ils sont très informés, mais ils sont aussi l'objet de manipulations, hein, on le sait, en termes de désinformation. Et le risque est aussi pour chaque pays, et parlons de la France, de confondre des échéances donc avec un projet européen qui n'est pas un projet national français et de continuer, car c'est quand même une grosse tendance, à en faire des enjeux nationaux et de ne pas parler d'Europe, parce qu'on a bien remarqué que dans certains débats, on parlait de situation intérieure, mais pas d'Europe.
70% du budget de l'Union européenne est consacré à des actions de proximité. Pour la période 2021-2027, ce sont 1,4 million d'euros de fonds européens qui ont été attribués à l'Occitanie. Dans quel domaine ces projets voient-ils le jour, Geneviève Saint-Hubert ?
Alors, vous l'avez dit en préambule, il voit le jour, disons, dans quasiment tous les domaines. Pour accéder donc à ces fonds, hein, que vous avez mentionnés, il y en a de plusieurs types. On va nommer les principaux, hein, qui sont le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui permet, alors là, d'avoir de l'argent pour des projets liés à des infrastructures, quelles qu'elles soient. Il y a ensuite le Fonds social européen, qui, lui, s'adresse plutôt à des publics, hein, qui va plutôt financer de la formation, de l'insertion. Et puis le FEADER, bien sûr, qui concerne la PAC.
Oui, celui-là,
il y en a d'autres,
le
mais
connaît.
Voilà les principaux.
Oui. L'Europe s'incarne partout dans les territoires, des métropoles jusque dans nos villages. Elle investit dans de multiples domaines de notre quotidien et ne se limite pas à édicter des normes ou à une monnaie commune. C'était ce que déclarait récemment Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Entre 2014 et 2020, plus de 3000 projets ont été soutenis en Occitanie grâce aux fonds européens. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns ?
Oui, vous parlez de Carole Delga, donc c'est la présidente de la région. Donc, si on parle de grands projets régionaux, on va déjà parler de la LGV, hein, la fameuse ligne à grande vitesse, qui va permettre à des millions de citoyens, occitans ou pas d'ailleurs, d'en bénéficier. Si on parle de mobilité douce, les Toulousains prennent le métro tous les jours. La ligne C est également cofinancée avec des fonds européens. Le téléphérique Téléo, hein, qui est le téléphérique, je rappelle, le plus long de France, a également été cofinancé. Mais il y a effectivement d'autres domaines. Parlons de la santé. Il y a également, dans le cadre du FEDER, appelé REACT-EU, qui est donc ce fonds qui a été mis en place après la crise sanitaire pour la relance économique en Europe. Il y a donc la création, l'investissement pour des établissements publics, pardon, ou médico-sociaux qui ont bénéficié d'un soutien. Ce sont la plupart du temps des centres hospitaliers. Celui de Toulouse en a bénéficié. Bon, on peut citer Perpignan, Mazamet, etc. Et puis, il va y avoir donc la mise en place de maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux. Et là encore, c'est cofinancé par l'Europe. Notre projet, par exemple, qui part d'insertion professionnelle des jeunes par le sport, à Toulouse, l'association Rebond, donc là, cette fois-ci, a été financée par le FSE. Alors, pas sur cette programmation forcément, mais peu importe, pour aider les jeunes, donc, par le rugby, à s'insérer socialement, voilà, et professionnellement.
Et si on quitte la région toulousaine, dans les Hauts-de-Pyrénées, dans le Gers, est-ce que vous avez d'autres exemples?
Alors, je peux parler des centres hospitaliers de Auch et de Bigorre et de Bagnères-de-Bigorre. Nous étions à Carmaux avec, il y a un programme pour les fonctionnaires européens qui souhaitent revenir sur les traces de leurs études qui s'appelle Retour à l'école. Nous étions à Carmaux il y a au mois d'avril avec l'une de ces personnes et avec le maire dont nous avons visité par exemple le quartier de la Verrerie qui a été totalement rénové grâce aux fonds européens ainsi que l'agence de France Travail pour de la rénovation énergétique, par exemple. Et on est passé, et j'en profite pour le souligner, par les Restos du Cœur. Et je rappelle que l'Union européenne finance un repas sur trois pour les Restos du Cœur, et ça, on ne le sait pas
Non.
assez non plus.
Oui, vous faites bien de le mentionner. En matière d'éducation, citons le célèbre programme d'échange Erasmus, plébiscité par les Français, qu'il place en tête des réalisations européennes. Geneviève Saint-Hubert, est-ce qu'il y a des projets d'amélioration de ce programme?
Alors déjà, on va souligner que le budget a été doublé. Ça, c'est quand même une très nette amélioration. En effet, vous l'avez dit, c'est un programme qui, Erasmus Plus, ne s'adresse pas qu'aux jeunes ni aux étudiants. Il s'adresse à des personnes dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation tout au long de la vie, qui peuvent faire des mobilités européennes et aller se former dans un autre pays. Et il s'adresse également, il s'est élargi, il s'adresse également donc non seulement aux étudiants, mais aux apprentis, mais également des classes peuvent partir pour des périodes plus courtes, bien sûr. Il y a aussi tout ce qui concerne l'éducation non formelle, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le cadre scolaire, qui permet à des jeunes de partir dans le cadre de ce qu'on appelle le corps européen de solidarité, ou de faire des projets de jeunes qui structurent eux-mêmes leurs projets et qui organisent un projet de mobilité. Bref, vous le voyez, beaucoup de cordes à cet arc appelé Erasmus+, dont le budget a été
A été doublé
quasiment
alors.
doublé.
Ah
Voilà,
oui, oui,
oui.
oui. Alors vous avez parlé, Geneviève Saint-Hubert, du rôle de l'Union européenne dans la santé. Elle joue aussi un rôle prépondérant pour l'environnement. Elle a par exemple rejeté en novembre 2023 une législation visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne d'ici 2030. Et puis d'un autre côté, le Parlement européen a voté la réduction de 40% d'ici 2030 des émissions de CO2 des voitures neuves. Alors avouez que parfois on a du mal à suivre la logique de l'Union européenne.
Oui, et là, vous allez me permettre de donner une bonne raison d'aller voter aux élections
Ah.
dimanche prochain, puisque, rappelons-le, nous allons élire un Parlement européen donc, qui va refléter le vote des citoyens de l'Union européenne, hein, 450 millions de citoyens. Nous allons élire, nous, 81 eurodéputés, et l'orientation de nos votes donnera également l'orientation des politiques qui seront menées. Rappelons qu'il y a deux entrées pour les citoyens, si je peux m'exprimer ainsi, pour que leur voix compte, c'est d'abord la voix de l'élection du ou de la présidente de la République nationale, qui siège au Conseil européen, qui est un des acteurs majeur évidemment de l'orientation de l'Union européenne et qui donc, selon le président ou la présidente que l'on élit, va donner telle ou telle impulsion avec ses collègues évidemment à l'Europe. Et le deuxième levier, évidemment, ce sont les élections européennes où là, nous voterons au suffrage universel pour élire nos représentants et bien sûr avec les tendances politiques qui seront représentées, cela donnera aussi une coloration à ce qui est voté. Voilà.
Oui, bien sûr. L'hiver dernier, la Commission européenne a proposé de déclasser le statut du loup, proposant de le faire passer du statut d'espèce strictement protégée à celui de simplement protégée. Cela permettrait un assouplissement des règles concernant les prélèvements sur l'espèce et la possibilité pour les éleveurs d'en abattre un plus grand nombre. En quoi une telle décision entre-t-elle dans les compétences de l'Europe?
Alors, l'Europe, vous le soulignez, a des compétences, mais elle ne les a pas toutes.
Oui.
Elle en a un certain nombre, et parmi celles-ci, eh bien, on peut retrouver effectivement cette compétence de pouvoir voter sur la protection des espèces animales. Il y a le programme Natura 2000, qui est le grand programme de protection de l'environnement. Donc, c'est dans ce cadre précis, donc de compétences sur des domaines environnementaux qu'elle a pu voter ça. Voilà,
D'accord.
il y a un certain nombre de compétences. Je rappelle qu'elle ne les a pas toutes et l'exemple que je donne le plus souvent et le plus parlant, c'est l'éducation nationale où, on va faire le lien avec Erasmus, l'Europe ne va pas dire que le programme de telle classe ou de telle université va être telle ou telle. En revanche, elle va agir à un niveau plus supranational, on va dire, avec le programme Erasmus+ pour créer des passerelles.
Oui, parce que c'est toujours une crainte, c'est de se dire, est-ce que notre État va perdre sa souveraineté? Et peut-être que vous pourriez rappeler, Geneviève Saint-Hubert, l'impact de la législation européenne sur la législation des pays membres.
Oui, le droit européen prime sur le droit national. C'est-à-dire que lorsque quelque chose qui est donc, rappelons-le, de la compétence de l'Union européenne est voté, que ce soit une directive, donc ça, les États ont du temps pour l'appliquer, hein, puisqu'il y a des intégrations à faire, hein, ou un règlement qui, lui, s'applique immédiatement dans le temps. Eh bien, le droit européen prime et les États, puisque de toute façon, rappelons-le, c'est eux qui ont codécidé ce qui s'est voté au Parlement et au Conseil de l'Union. Donc, forcément, si ça a été voté et que ça a été accepté à une majorité simple ou qualifiée selon la manière dont c'est voté, les États doivent appliquer le droit européen.
Oui, CQFD, effectivement. Alors, rappelons que les élections européennes ont lieu tous les 5 ans. Donc, dimanche 9 juin, vous l'avez dit, Geneviève Saint-Hubert, il faudra élire 80 eurodéputés pour la France sur les 7,
81,
81, pardon,
81,
sur les 720 au total. En 2019, 51% pourtant des électeurs ont participé aux élections européennes. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les abstentionnistes?
alors, je pense que chacun doit se faire son opinion. Chacun doit voir si il souhaite que sa voix, puisque c'est un peu le slogan de l'Union européenne, que sa voix compte. La seule chose que je peux dire, et quelle que soit l'élection, c'est que si on ne va pas s'exprimer, si on ne dit pas son choix, eh bien, ça veut dire qu'on laisse les autres choisir pour soi.
Eh oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, je ne vous entends plus, j'ai un petit problème. Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Pardon, Geneviève
Vous
Saint-Hubert,
m'avez
les
retrouvé.
joies du direct.
Je suis toujours là.
Donc, ne pas hésiter à aller voter dimanche pour être aussi participant des décisions de la communauté européenne, de l'Union européenne.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dimanche, on aura l'occasion de donner donc une direction à l'Union européenne en votant donc pour la liste, le candidat, la tendance que l'on veut voir se développer en Europe.
Merci beaucoup, Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison de l'Europe. Tous aux urnes, donc, dimanche 9 juin, pour élire nos députés européens. Bonne journée.